C'était il y a 42 ans, sauf erreur de ma part, dans une salle vieillotte et sombre, un sous-sol à Toronto. Nous étions trois séminaristes et nous parlions de notre avenir. Et je me souviens que ce soir-là, tous les trois, nous avons prêter une sorte de serment. Christ serait désormais et à jamais au centre de nos vies, au centre de notre ministère en général, notre prédication en particulier. De ces trois, je suis le seul qui suis encore dans le ministère. Ma responsabilité est donc d'autant plus grande. Et je remercie le Seigneur d'avoir permis que je me retrouve au service d'une église dont la devise secrète est « Qu'en tout Christ soit le premier ». C'est ce qui me permet depuis quelques semaines en particulier de vous inviter régulièrement à retourner vers lui pour tenter de le redécouvrir avec moi, dans toute la beauté de sa personne et de son œuvre. Nous avons commencé de le faire en nous fondant sur quelques-uns de ses titres les plus glorieux, médiateur, rédempteur. Ce matin, je vous invite à le retrouver dans sa position de pasteur. C'est Jésus lui-même qui déclara un jour « Je suis le vrai pasteur, le vrai. » Et je pense encore à ce texte de l'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 13, qui nous parle de ce Dieu de la paix qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger ou le souverain pasteur des brebis, et cela grâce au sang d'une alliance éternelle. Profondément enraciné dans l'expérience quotidienne d'une civilisation largement pastorale, l'image du pasteur, du berger, menant son troupeau exprime admirablement un aspect important de la relation qui unit le Seigneur à son peuple à travers Christ. Dès le début de son histoire, Israël a trouvé en Dieu un berger unique. C'est Jacob qui déjà choisit de bénir son fils Joseph en ces termes, je cite, « Par la puissance du Dieu fort de Jacob, par le nom du berger, la pierre où s'appuie Israël, par le Dieu de ton Père qui est ton secours, par le Dieu tout-puissant qui te bénit, reçois les bienfaits de la pluie qui descend du ciel, de l'eau qui monte des profondeurs du sol, de la fécondité des femmes et du bétail. » Lors de l'Exode ensuite, il nous est dit du Seigneur qu'il pousse son peuple comme des brebis, comme un troupeau dans le désert. Plus tard, le psalmiste dépeint son Dieu comme celui qui sort devant son peuple pour le conduire vers les terres ou les eaux qui le restaureront à coup sûr en le comblant de bonnes choses et le défendre avec le bâton qui ne le quitte pas. Ce psaume auquel je me réfère est celui que nous avons chanté il y a quelques instants. Plus tard encore, tel un berger qui fait paître son troupeau, il apparaît au prophète Ésaïe comme celui qui recueille dans ses bras les agneaux, les met sur sa poitrine et conduit au repos les brebis mères. Toujours plein d'égards pour elles, confirme Zacharie, un autre prophète, il rassemble en les sifflant, c'est le mot que le prophète utilise, il rassemble en les sifflant ses brebis égarées, dispersées, et les guide tantôt vers les sources bouillonnantes, Ésaïe 49, verset 10, tantôt vers les eaux calmes et l'herbe fraîche, Psaume 23, verset 2, selon les circonstances et les besoins. Cependant, si la métaphore du berger est fréquemment utilisée dans l'Ancien Testament pour décrire le Seigneur dans sa relation avec son peuple, le titre de pasteur, lui, aussi surprenant que cela puisse paraître, ne lui est que rarement reconnu par Jacob deux fois et par le psalmiste deux fois également. C'est qu'il a préféré le réserver à celui qui doit venir, à son Messie, Jésus, Christ. D'où le titre de notre méditation, Christ, souverain pasteur de l'Église, le nouvel Israël. Une méditation que nous articulerons autour de trois thèmes, l'avènement, la personne et l'œuvre de ce souverain pasteur. Mais là encore, parce que le temps dont nous disposons nous est compté, nous ne toucherons ce matin qu'aux deux premiers, son avènement et sa personne, réservant l'étude du troisième, son œuvre, pour une autre occasion. Son avènement. Ne nous intéresserons ici que les raisons de cet avènement, parmi lesquelles nous en distinguerons trois. Notre condition, la compassion du Seigneur et son dessein. Notre condition. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler ici en quels termes, peu flatteurs, il faut bien le dire, Jésus lui-même nous décrit, nous, tels que nous étions, avant qu'il ne nous rencontre. De quoi aviez-vous l'air ? Interroge-t-il. D'un troupeau qui n'a pas de berger. De brebis dispersées, perdues, fatiguées, découragées, livrées sans défense aux voleurs et aux brigands. Autant d'expressions que nous retrouvons sur sa bouche. Les raisons de cette situation désespérée, nous en citerons trois les plus évidentes. Notre folie d'abord, parce que nous nous croyions plus malins que Dieu dès l'origine. Nous sommes sortis tous ensemble du chemin qu'il nous traçait, tous ensemble. Et ce hors-piste devait se révéler fatal. Bientôt privés de toute lumière, nous nous sommes égarés et finalement perdus dans la nuit. La deuxième raison, le jugement de Dieu. Dieu aurait pu nous retenir de force et nous maintenir d'autorité sur la voie juste. Il en avait les moyens et peut-être même un temps au moins le désir. Je pense ici à cette confidence qu'il fit un jour à son ami Osée, parlant des siens, il annonce en substance « Je leur barrerai la route par une haie d'épines. Je les entourerai d'un mur pour les empêcher désormais de partir. » Projet contemplé, mais abandonné. Il a finalement préféré ne pas attenter à notre liberté et respecter notre choix. Nous ne voulions pas de ses conseils, il s'est tu. Nous désirions affirmer notre autonomie, il s'est effacé. Nous désirions être seuls, il nous a abandonnés à nous-mêmes. Ce que nous ignorions, c'est qu'en répondant ainsi en tout point à notre attente, le Seigneur, en réalité, nous infligeait la plus lourde des peines. Nous laissant nous couper de lui, la source unique de lumière et de vie, il nous condamnait à l'obscurité et à la mort. Voilà pour la deuxième raison. La troisième, enfin, l'incompétence de nos chefs. Privés de la présence de Dieu et par conséquent de sa protection, nous avons remis notre sort entre les mains de chefs issus de notre rang. Tous ne furent pas mauvais, mais les meilleurs eux-mêmes ne furent jamais mieux qu'incompétents en matière de foi et de conduite, en un mot, de vérité. Mais il est une deuxième raison pour laquelle Christ, finalement, a été donné aux hommes comme souverain berger. La compassion du Seigneur. Sa compassion. Une compassion dont on perçoit nettement le lumineux reflet dans la personne de celui qu'il a envoyé au-devant de nous. Quand Jésus vit cette grande foule, rapporte en substance Marc, l'évangéliste, parce qu'elle ressemblait à un troupeau qui n'a pas de berger, précisément, son cœur fut rempli de pitié. Le terme utilisé ici est très fort. Plus qu'une sensation intérieure et passagère de pitié, il évoque à la fois une profonde émotion mêlée de tendresse et une ferme résolution, celle d'exercer sa compassion. Autrement dit, après avoir senti son cœur se serrer, son estomac se nouer, de passer à l'acte, en s'offrant sans réserve, comme il le fera bientôt, pour rendre à tous les désemparés de la terre dont nous étions une espérance. Si donc Christ est paru dans le monde comme souverain pasteur, c'est parce que Dieu, Père et Fils et Saint-Esprit, n'avait pu rester longtemps insensible à l'immense détresse dans laquelle nous nous étions nous-mêmes précipités, et que, touché au cœur par notre misère, il avait résolu en lui-même de retrouver au plus tôt ceux qui s'étaient bêtement, c'est le cas de le dire, perdus loin de lui. Maintenant, il y a une troisième raison pour laquelle Christ, finalement, a été donné aux hommes, nous a été donné comme souverain berger. Le dessein éternel de Dieu. Son dessein. Un dessein que nous résumerons ainsi ce matin. Se constituer sur cette terre déjà un peuple qui le glorifie. Autrement dit, une communauté dont paroles et gestes diront aux hommes, en même temps qu'à l'univers tout entier, et la perfection de son être, et la splendeur de sa personne, et l'éclat de sa gloire. Mais comment une telle nation naîtra-t-elle, croîtra et se perfectionnera sans un souverain berger pour la rassembler, la conduire, la purifier? D'où le projet divin, dont Michée en particulier, un autre prophète encore, avait eu vent des siècles avant qu'elle ne se réalisât, susciter à Bethléem un pasteur unique, dont l'origine remonte aux temps les plus anciens. Et la fonction serait de gouverner au nom de celui qui l'a envoyé et de conduire fermement le peuple en manifestant devant lui la puissance et la présence glorieuse du Seigneur, son Dieu. Michée chapitre 5, versets 1 à 4, je cite « Et toi, Bethléem Ephrata, déclare le Seigneur. Tu es une localité peu importante parmi les familles de Juda. Mais de toi, je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël et dont l'origine remonte aux temps les plus anciens. Et lui, le chef promis, conduira fermement le peuple en manifestant la puissance et la présence glorieuse du Seigneur son Dieu. Les gens de son peuple vivront alors en sécurité, car on reconnaîtra sa grandeur jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui amènera la paix. » Voilà donc pour le premier sujet de réflexion ce matin, Christ, souverain sacrificateur, souverain pasteur, pardon, son avènement. Quelques observations maintenant sur le deuxième, sa personne. Qui est au juste celui que Dieu, dans sa grâce, a donné aux hommes comme souverain pasteur? Son Christ, oui. Mais soyons plus précis. Comment l'Écriture nous présente-t-elle ce Christ, berger ultime du nouvel Israël, de l'Église ? Réponse, tout à la fois, comme Dieu lui-même, comme le Fils de David, comme le ressuscité, comme l'ami. Dieu d'abord. Avez-vous noté dans l'admirable présentation que nous en a fait le prophète Michée, quelques 7 ou 8 siècles avant son avènement, cette phrase magnifique. Et lui, le chef promis, dont l'origine remonte aux temps les plus anciens, conduira fermement le peuple en manifestant la puissance et la présence glorieuse du Seigneur son Dieu. Son rôle est capital, car il écarte d'emblée toute incertitude sur l'identité du souverain pasteur à venir. Il sera la puissance même de Dieu. Cette puissance rendue visible, mieux encore, sa présence tout simplement dévoilée, manifestée. Une présentation qui correspond parfaitement à celle que nous offrent de Jésus-Christ ceux qui l'ont connu et se sont laissés éblouir par lui, ses disciples, devenus par la suite ses apôtres. En lui, écrit l'apôtre Paul aux chrétiens de Colosse, Dieu a décidé d'être pleinement présent. C'est si vrai qu'on peut dire de lui, sans crainte de se tromper, qu'il est l'image visible du Dieu invisible, le reflet de la splendeur de sa gloire, ou encore l'exacte représentation de l'être divin, Hébreux chapitre 1. Dieu. Dieu depuis toujours, puisqu'au commencement déjà, il était Dieu. Mais Dieu à visage découvert cette fois. Comme s'il comptait sur cette glorieuse manifestation pour convaincre les hommes, pour nous convaincre, de reconnaître en lui, enfin, leur pasteur. Celui qui m'a vu, affirme Jésus à Philippe, a vu le Père. Quelque temps auparavant, il avait annoncé, je cite ici Jean 8, verset 28, puis 24, « Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez que je suis. » Si vous ne croyez pas que je suis le nom divin par excellence, je suis. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais si l'Écriture identifie nettement notre souverain berger à Dieu lui-même, rendu visible en son Fils, exprimé tout entier dans son Christ, elle le présente ensuite comme le Fils de David. Ézéchiel 34, versets 23 et 24, je cite, « Je mettrai, dit le Seigneur, à la tête de mon troupeau, un unique berger qui saura en prendre soin, lui. » Ce sera mon serviteur David. Lui, il prendra soin des bêtes, du troupeau. Lui sera un vrai berger pour elles. Moi, le Seigneur, je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera leur prince. C'est moi, le Seigneur, qui l'affirme. Nous ne saurions sous-estimer l'intérêt de ce titre lorsqu'il est conféré par Dieu lui-même, au souverain pasteur à venir. Car il fait de lui, dont nous savons déjà qu'il est Dieu, un fils d'homme. Le berger promis ne sera pas seulement d'essence divine, il appartiendra également à notre race. Il sera l'un des nôtres. Partageant notre condition aussi pleinement que celle de Dieu, il sera capable donc de compatir parfaitement aux faiblesses de ceux qui lui seront confiés pour qu'il les soigne et les guérisse. Ici encore, l'antique présentation du souverain pasteur attendu correspond très exactement à celle qui nous est faite de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Dieu, oui, mais Dieu fait homme, la parole fait chair, écrit Jean. Dieu venu habiter parmi nous et en nous. Dieu venu partager notre condition. Dieu venu vivre notre vie, comme pour nous persuader de lui faire une entière confiance. Ne pouvant décidément rien ignorer, ni de nos aspirations, ni de nos frustrations, il sera toujours parfaitement à même de prendre en compte tous nos besoins pour y pourvoir largement le long du chemin. D'où cette invitation pressante de l'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16, je cite, « Tenons donc fermement la foi que nous proclamons. Nous avons en effet un grand prêtre souverain parvenu jusque dans la présence même de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Et avec lui, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout comme nous le sommes, mais il n'a pas commis de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où se trouve la grâce. Nous y recevrons le pardon et y trouverons la grâce nécessaire pour être secourus au bon moment. » Permettez que je relise la fin de ce texte. « Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où se trouve la grâce, d'où jaillit la grâce. Nous y recevrons le pardon et y trouverons la grâce nécessaire pour être secourus au bon moment. » Maman. Mais il nous faut poursuivre et citer maintenant cet autre titre reconnu par l'Écriture à Christ, souverain berger de son peuple, pasteur en chef de l'Église, le ressuscité. Lettre aux Hébreux, encore, mais chapitre 13, cette fois, le texte que nous lisions un peu plus tôt, verset 20. Dieu a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, qui est le grand berger, le souverain pasteur des brebis. Ainsi, le témoignage divin est sans ambiguïté. Le souverain berger qui a été donné aux hommes est vivant. Certes, il est mort. Comme l'avait annoncé le prophète Zacharie, l'épée a attaqué le berger dont le Seigneur avait fait son associé et tué le berger. Mais quelques heures seulement après qu'il eut subi notre punition et connu l'enfer pour nous l'épargner, cela nous a été rappelé un peu plus tôt lors de ce culte, Dieu l'a ressuscité. Et peu de temps après l'avoir relevé, nous est-il dit, il l'a élevé, élevé à la plus haute place, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin que par respect pour le nom de Jésus, tous les êtres qui se trouvent dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous proclament que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, notre souverain pasteur apparaît-il bien dans l'Écriture comme le vivant, celui qui, aujourd'hui, non seulement fait l'expérience parfaite de la vie, mais encore conduite aux sources de la vie et accorde gratuitement à tous ceux qui acceptent de le suivre la vie en abondance. Celui qui le premier a été ramené de la mort à la vie et qui aujourd'hui est assis sur le trône, celui-là, lisons-nous dans le livre de l'Apocalypse, les protégera par sa présence. Ils n'auront plus jamais faim ni soif, ni le soleil, ni aucune chaleur ardente ne les brûleront plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône sera leur berger. Et il les conduira aux sources d'eau vive. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. « Je suis le bon berger », déclare Jésus. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie afin de la recevoir à nouveau. C'est ce que mon Père m'a ordonné de faire. Aujourd'hui, mes brebis écoutent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. je leur donne la vie éternelle. Le vivant qui donne la vie. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne mourront jamais. Mais le témoignage de l'Écriture ne s'arrête pas là. Le souverain berger que le Seigneur a donné aux hommes et qui écoute et suit ses brebis n'est pas seulement Dieu lui-même ou le fils de David ou le ressuscité. Il est encore et enfin l'ami. Il n'est que de relire le 10e chapitre de l'Évangile de Jean pour sentir l'extraordinaire affection dont le vrai berger, le vrai pasteur, entoure en permanence ceux qui écoutent sa voix et le suivent. Je suis le bon berger, dit Jésus. De même que le Père me connaît, je connais le Père. De même, je connais mes brebis. Et de même que je connais le Père, de même, je connais mes brebis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que Jésus veut dire ici. C'est vertigineux. Son amour pour vous, son amour pour moi, son amour pour nous, qui avons reconnu en lui notre souverain pasteur, était la mesure exacte de l'amour dont s'aiment depuis toujours le Père et le Fils. Quelqu'un a dit un jour, « Il nous aime tous comme s'il n'avait que nous à aimer. » Que vous, que moi à aimer. C'est pourquoi, écrit Paul, « Je me mets à genoux devant Dieu le Père et demande que, avec tous les membres de son peuple, vous soyez capable de comprendre combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître, dit encore l'apôtre, son amour. Un amour dont le bon berger prouve largement l'authenticité lorsque, sans rien attendre en retour, il lui donne de ne pas consister uniquement en discours et en belles paroles, mais de s'exprimer concrètement par des actes. Mais nous touchons ici déjà à notre troisième et dernier thème de réflexion, Christ, en tant que souverain berger, son œuvre. Un thème, nous avons déjà dit, que nous réservions l'étude pour une autre occasion. Le moment est donc venu pour nous ce matin de conclure. Je vous propose de le faire très simplement en résumant brièvement ce que cette première étude nous a permis de découvrir et plus vraisemblablement de redécouvrir. Un, que notre folle aspiration à une parfaite autonomie par rapport à Dieu avait fait de nous des brebis sans berger, condamnées à périr après qu'elles se seraient définitivement égarées. Deux, que le triste spectacle de notre débandade n'a pas laissé le Seigneur insensible, mais l'avait très profondément bouleversé au contraire. Trois, que sa vive compassion l'avait très vite conduit à annoncer l'envoi et l'avènement, donc, parmi les hommes, d'un pasteur unique, le vrai berger, pour les arracher à leur nuit, les remettre sur le chemin du salut et les y conduire jusqu'à la vie abondante, jusqu'à la vie éternelle. Quatre, que ce berger magnifique, Jésus, alias le Messie, ou le Christ de Dieu, n'était autre que Dieu lui-même dans toute sa majesté. Cinq, qu'il était Dieu, certes, mais Dieu fait homme. Dieu devenu fils de David, après qu'il eut choisi librement de s'insérer, si je puis dire, dans la lignée du grand roi. Six, qu'après s'être abaissé jusqu'à nous et avoir accepté de donner sa vie pour nous, le Seigneur l'a relevé d'entre les morts, en sorte que nous le savons vivant à jamais, pour entraîner celles et ceux qui acceptent de le suivre vers la source unique et intarissable de la vie. Et cette, que cheminant aujourd'hui à notre côté, si nous écoutons sa voix et avons plaisir à faire ce qu'il nous commande, il est à jamais l'ami sur lequel nous pourrons toujours compter pour nous comprendre, nous assister et finalement nous sauver. Puis ces dernières vérités touchant à Christ en tant que souverain pasteur de l'Église nous remplir déjà d'admiration et de reconnaissance pour celui qui, dans sa grâce éblouissante, nous l'a donné un jour. Amen.